Cher auditeur, cet épisode a été enregistré en néerlandais. L'interview a été traduite et doublée avec une voix générée par l'intelligence artificielle, afin de conserver au mieux l'authenticité de la voix originale. Bonne écoute. Bienvenue dans notre podcast sur l'Expo 58. Dans cet épisode, nous vous ramenons également en 1958. Un journal coûtait 2 francs, la NASA voyait le jour et le hula hoop en plastique prenait le monde d'assaut. Imaginez que nous sommes en 1958. Vous êtes jeune et vous vivez dans la capitale de la Belgique. Partout où vous regardez, vous voyez des immeubles, des pavillons en construction et des rails de tramway posés. La ville dans laquelle vous avez grandi est en train de changer et il y a de l'électricité dans l'air. La raison de cette énergie frénétique ? L'exposition universelle de Bruxelles, également connue sous le nom d'Expo 58. Aujourd'hui, nous écoutons l'histoire de Frances van der Vondelen, qui a grandi à Bruxelles et a vécu l'exposition universelle de 1958 aux premières loges. Les préparatifs de l'Expo 58 ont commencé bien des années avant son ouverture. L'idée et les premiers plans ont été discutés dès le début des années 1950. La Belgique souhaitait que cette exposition universelle soit l'occasion de montrer son redressement après la Seconde Guerre mondiale et de souligner son rôle central dans la communauté européenne. La construction des pavillons et des structures, dont l'emblématique Atomium, a débuté en 1956. Frances van der Vondelen avait alors 13 ans et vivait à Bruxelles. La première fois qu'il est entré en contact avec l'expo, c'était pendant la construction. Ce fut un véritable coup de foudre.
Je suis Frances van der Vondelen. Actuellement, j'habite à Jette, près d'ici en fait. Et en 1958, je vivais à Evere. Donc j'ai vécu l'expo 58 depuis Evere. Tôt le matin, j'ai pris le tramway pour me rendre au Heysel et j'y ai passé toute la journée. Et il y avait plusieurs façons d'envahir la première expo. Alors qu'ils construisaient, je parle maintenant des années 1956, j'ai été autorisé à me promener ici le dimanche dans le cadre de visites guides pour voir l'évolution des œuvres, par exemple. Je ne dirais pas de semaine en semaine, mais de mois en mois, vous avez vu l'atomium ne pas sortir du sol, mais en fait monter. Donc, la première rencontre avec l'Expo 58, c'était avec les travaux des années 56 et 57. Puis le premier jour de l'Expo, le jeudi 17 avril 1958, lorsque la grande masse a pu entrer, lorsque le roi a donc déclaré l'Expo officiellement ouverte, avant l'expo, quoi qu'il en soit, avant l'expo, il se passait toutes sortes de choses que l'on lisait dans les journaux, mais je n'ai pas réalisé que c'était avant l'expo. Par exemple, les piliers de soutien de l'atomium ici, ils ont été fabriqués, je crois, à la Louvière. Je ne suis pas sûr, mais quelque part dans le Brabant wallon, j'ai vu des photos de ces piliers étant manœuvrés à travers les petits villages wallons, ces grandes rampes, pour venir jusqu'ici. Mais on ne pouvait pas tout saisir, c'était tellement énorme en fait. Quelques années auparavant, je parle des années 55-56, je crois que nous étions en vacances à Blankenberg ou à La Panne, je ne sais plus exactement, mais il y avait un pavillon pour la publicité, pour l'expo. Ainsi, 2 ans à l'avance, on fait de la publicité pour l'expo 58 et bien sûr l'avancement des travaux. Par exemple, l'hebdomadaire a failli publier une revue des travaux à l'atomium, comment il se développait, etc. À l'époque, parce que je devais aller à l'Expo 58, tout le monde a participé à l'Expo 58. Il y avait du pain Expo 58. À la boulangerie ordinaire, on vendait aussi du pain Expo 58. La Côte d'Or avait des tablettes de chocolat Expo 58. Tout le monde a participé à l'expo.
Difficile de l'imaginer, car nous vivons aujourd'hui à une époque où le monde tient dans notre poche et où nous réservons en quelques minutes, avec notre pouce, un billet d'avion pour les destinations les plus exotiques. La situation était différente en 1958. voyager n'était pas à la portée de tout le monde et pour beaucoup, partir à l'étranger était hors de question. Un voyage à Blankenberg était possible, mais prendre l'avion pour Benidorm était moins évident. L'Expo 58 a donc été une occasion unique pour beaucoup de faire un tour du monde à Bruxelles.
En 1958, nous sommes restés à la maison pour l'Expo 58, mais c'était une semaine à Blankenberg. Pas 14 jours, mais une semaine à Blankenberg, et puis un appartement meublé. Nous avons donc imaginé ma famille, mes parents et moi, tous les trois. Nous sommes ensuite arrivés à Blankenberg, et la première chose que nous avons faite a été de chercher une chambre meublée. Ensuite, nous avons loué une chambre meublée pour une semaine et nous avons dû immédiatement faire nos courses. Parce qu'il y avait une cuisine attenante pour préparer les frites du dimanche. C'était un voyage autour du monde. Tu voulais parler de voyage là-bas. En 1958, il n'était pas courant, par exemple, de partir en voyage en Finlande ou en Iran ou au Brésil. Ce sont des découvertes que nous avons faites.
Frances a visité l'Expo 58 pas moins de 70 fois. Il habitait donc à deux pas du Hesel et essayait de visiter l'exposition universelle autant de fois que possible. On pourrait croire qu'il a tout vu. Pendant ces 6 mois, aucun pavillon n'a été érigé, les menus des restaurants ont à peine changé et l'exposition est restée en grande partie la même. N'en a-t-il pas eu assez de tous ces pavillons ?
Non, on ne se lassait pas de ça, parce que chaque jour, il y avait quelque chose de différent à découvrir. Il y avait les pavillons des différents pays, mais il y avait aussi des pavillons d'entreprise. Par exemple, ce qui me vient à l'esprit, c'est IBM. Ils avaient un pavillon et il y avait des machines à écrire électriques avec des boules. Il s'agissait auparavant de sphères. Et c'est la première fois que l'on a vu cela ici. Et donc, pratiquement, je ne vais pas dire tous les jours, mais souvent, j'allais d'abord au pavillon IBM pour taper un mot, puis je regardais le reste. Mais il y avait aussi d'autres choses. Par exemple, il y avait le Cercarama et le Cinérama. Le Cinérama était projeté sur 3 écrans différents. Non, une grande projection avec 3 caméras différentes. Une caméra par ici, et une caméra par là, et une caméra par là. La concurrence était Cercarama, qui comptait 15 écrans. Elles se sont déroulées à côté du pavillon américain, un peu plus loin. Je suis donc parti le matin. Si je me souviens bien, l'expo ouvrait à 10 heures, donc je partais tôt le matin vers 9 heures en tram jusqu'ici. Ma mère préparait des sandwichs. C'était normal à l'époque. Les jeunes peuvent désormais se rendre immédiatement au restaurant. Je suis donc arrivé ici avec mes sandwichs. Et partout, il y avait des petits pavillons de Coca-Cola qui étaient remplis de Coca-Cola. Donc, des sandwichs avec du Coca-Cola ou bien au pavillon du Saint-Siège en libre-service. Et le menu. Menu belge traditionnel. Boulettes à la sauce tomate. Spaghettis et autres. Cependant, la population n'avait pas l'habitude de voyager. Spaghettis, c'était quelque chose de lointain. Manger grec, du fromage feta, par exemple, cela n'a pas été fait ici. Vous pouvez oublier cela, ce n'était pas il y a 80 ans. C'était bien plus récent, n'est-ce pas? Il y a près de 60 ans. Mon abonnement, j'avais un abonnement pour les jeunes. C'était 300 francs et c'était très cher. Mais on savait longtemps à l'avance combien coûtaient les abonnements et j'ai économisé pour m'abonner. Bon, j'ai économisé pour mon abonnement de 300. Bien sûr, mes parents sont intervenus. Il y avait quelque chose de différent chaque jour. Vous arriviez ici, vous ne saviez pas ce que vous alliez faire, pour ainsi dire, quel pavillon vous alliez visiter. Mais ce qui s'est passé au pavillon de la Norvège, et puis je vais visiter la Norvège. Mais s'il n'y avait pas que des pays, c'était aussi l'industrie. Il y avait le pavillon du diamant, le pavillon de la monnaie, pas du théâtre de la monnaie, mais des pièces de monnaie. Par exemple, une pièce spéciale a été frappée pour l'Expo 58. Il y a peut-être des pièces d'argent de 50 francs de l'époque qui ne sont plus en circulation aujourd'hui, mais qui l'étaient à l'époque. Cet argent, c'était une sorte de souvenir dans le coffre de la banque, en fait.
L'Expo 58 n'a pas seulement attiré des pays. Les entreprises y ont aussi vu l'occasion de se mettre en valeur. Disséminés dans le domaine de 200 hectares où se déroulait l'exposition, on trouvait également des pavillons d'entreprises. Ceux-ci étaient conçus pour présenter leurs dernières innovations technologiques et leurs produits. Il y avait par exemple le pavillon Philips, un chef-d'œuvre architectural conçu par l'architecte et compositeur Yanis Xenakis. Le poème électronique, la musique du spectacle multimédia composé par Edgar Varèse, a été très apprécié du public. La Sabena, alors compagnie aérienne nationale belge, disposait également d'un pavillon dans lequel elle présentait ses activités aéronautiques et l'évolution de l'aviation. Coca-Cola, le célèbre fabricant de boissons gazeuses, était également très présent.
N'oubliez pas que la guerre était terminée en 1945, que nous avons commencé à construire l'Expo 10 ans plus tard, pour l'ouvrir 13 ans plus tard. Les gens voulaient quelque chose de nouveau. Un monde nouveau était sur le point de naître.
Le message de l'exposition universelle est clair. Les ombres de la Seconde Guerre mondiale s'éloignent et laissent place à un horizon ensoleillé et plein d'optimisme. L'éclat doré des années 1960 s'annonce où la foi inébranlable en l'avenir et les merveilles de la science occupent le devant de la scène. La plaine du Hesel devient le théâtre de spectacles à couper le souffle. L'Expo 58 a permis aux pays et aux entreprises de montrer leur grandeur et leur vision. Par conséquent, chaque coin du site respirait le prestige et les pavillons brillaient d'ambition. Au milieu de cette agitation, Frances se promène, les yeux écarquillés d'admiration. Il aspirait avec avidité chaque nuance, chaque détail, chaque innovation. Il était plongé dans l'émerveillement d'un monde qui se réinvente.
Le pavillon français, c'était un géant parmi les pavillons, reposant sur un seul bloc de béton massif, presque comme un oiseau. Question beauté, le pavillon américain est le plus propre. En ce qui concerne la robustesse, la Russie était le pays le plus propre, mais il y avait aussi dans ce pays, par exemple, Spoutnik, le premier satellite lancé. Tout le monde voulait voir ce Spoutnik. Donc ça changeait en réalité d'un pavillon à l'autre. Mais, quoi qu'il en soit, à chaque pavillon des grands pays, il y avait une salle de cinéma. Par exemple, au pavillon américain, il y avait une salle de cinéma qui était une salle de théâtre. Et dans cette salle, ils ont joué South Pacific pendant très longtemps. C'est une comédie musicale. J'ai aussi appris des comédies musicales, entre autres, à la porte du pavillon américain. D'ailleurs, une partie du pavillon américain est toujours là. C'est le célèbre théâtre américain. Il n'a pas été démoli. À côté du pavillon américain, il y avait le pavillon russe. Et il y avait également une salle de cinéma où étaient projetés des films russes. On entrait en contact avec différentes cultures. Les Pays-Bas, par exemple, avaient un pavillon consacré à l'eau. Il y avait beaucoup d'eau. Ils étaient donc très occupés avec la construction de défense contre les inondations, etc. Pavillon marocain, c'était typiquement marocain, mais il y avait aussi, par exemple, le pavillon du Royaume-Uni, qui était typiquement britannique, car les joyaux de la couronne, ou du moins les faux joyaux de la couronne, y étaient exposés.
En 1958, nous sommes en pleine guerre froide. Cette période se caractérise par des tensions politiques, des divisions idéologiques et une course aux armements entre l'Occident, mené par les États-Unis, et le bloc de l'Est, mené par l'Union soviétique. De la fin de la Seconde Guerre mondiale au début des années 90, le monde a été régulièrement secoué par des affrontements, heureusement, sans que les deux superpuissances n'entrent directement en guerre l'une contre l'autre. Ce fut également le cas en 1958. Quelques événements se sont produits qui ont eu un impact à long terme sur les relations internationales. Il y a eu une crise au Liban, les États-Unis menacent la Chine d'une attaque nucléaire sur fond de crise dans le détroit de Taïwan, et le statut de Berlin-Ouest suscite des tensions. Les pavillons des deux superpuissances se font littéralement face. les deux pays tentent de se surpasser dans tous les domaines. Par exemple, l'Union soviétique a apporté à Bruxelles une réplique du satellite Sputnik. Ce satellite était non seulement une merveille technologique en 1958, mais aussi le point de départ de la course à l'espace. Mais le pavillon américain n'était pas en reste. Le bâtiment conçu par l'architecte Edward Durlstone, qui a également le MoMA de New York à son actif, était l'un des plus grands de l'exposition universelle. Il reflétait le progrès technologique américain d'après-guerre. C'est ce pavillon qui a laissé une impression durable à Frances.
La plus belle découverte, c'est le pavillon américain. Le pavillon américain était un grand cercle. Et ici, juste à côté du pavillon de la Russie, qui était un bloc et où l'on pouvait voir, entre autres, le premier Sputnik. Mais une découverte pour l'époque fut aussi le pavillon du Saint-Siège. Ils avaient un pavillon à côté du pavillon américain et ils avaient un restaurant. Et ce qui était exceptionnel, ou peut-être unique à l'époque, c'était le libre-service. C'est quelque chose que nous ne savions pas en 1958. Les gens étaient donc stupéfaits de voir leur assiette ouverte. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal, mais à l'époque, c'était exceptionnel. Vous êtes entré dans l'American Way of Life. Par exemple, nous n'avions pas encore de télévision couleur en Belgique. C'est arrivé dans les années 70, je pense. Mais il y avait un studio pour l'enregistrement de la télévision en couleur. Et donc, on pouvait aller à l'extérieur du studio. On pouvait voir comment cela fonctionne dans le studio, mais aussi voir le résultat sur les écrans. Et lorsqu'ils ne travaillaient pas dans le studio, il y avait Tom and Jerry ou Woody Woodpecker en couleur. C'était quelque chose de fantastique. Juste à côté, il y avait alors, je parle encore du pavillon américain, il y avait un studio où l'on pouvait écouter de la musique à loisir. Mais c'était aussi quelque chose de spécial, la stéréo. Nous n'avions jamais entendu parler de stéréo auparavant. Quand on entrait, les basses, le premier concerto pour piano de Tchaïkovski, qui était plein de musique. Un peu plus loin, on pouvait aussi voir l'ordinateur. Nous ne connaissions pas les ordinateurs, mais les cartes perforées. Mais nous ne savions pas ce qui se passait avec ces cartes perforées. Mais dans cet ordinateur, vous entreriez dans la cabine de ces ordinateurs et vous pourriez dire une année et demander « Imprimez-moi ce qui s'est passé en 1382, par exemple, et imprimez cela en néerlandais. » Alors, vous obteniez une ligne sur la bataille des éperons d'or. Vous ne pouviez pas demander en russe sur la révolution russe, donc vous deviez dire chaque fois une année et une langue, et alors vous receviez une note sur ce qui s'était passé cette année-là. Mais c'était quelque chose de fantastique. Maintenant, c'est banal. S'il y avait eu des barbelés, je n'aurais pas été surpris. Mais les gens venaient du pavillon américain pour se rendre au pavillon russe, mais seulement le concept de bâtiment lui-même de la Russie. Un bloc. Je ne peux pas mieux dire qu'un bloc. Et puis il y avait cette salle de cinéma pour voir des films russes. Notre population, je pense, n'était pas prête à voir des films russes. Le film qui est resté longtemps à l'affiche était le 41e sur la Révolution, mais je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de monde.
Comme prévu, la plupart des pavillons ont été démolis après l'Expo 58. Néanmoins, en regardant de près, on peut encore trouver des pavillons ici et là. Par exemple, il y a encore des vestiges du pavillon américain. Celui de Côte d'Or a été déplacé dans son intégralité et s'est transformé depuis des années en un célèbre carré de danse. Mais Frances a moins d'expérience en la matière.
Si vous m'invitez, pas pour danser avec vous, mais si vous m'invitez, je voudrais faire une comparaison avec le théâtre carré, le dancing carré d'aujourd'hui et le pavillon d'autrefois. Le fait est que l'American Theatre, qui se trouvait juste à côté, a servi encore plus longtemps comme studio de télévision pour la VRT. À l'époque, mais vous ne devez pas le savoir, Music Campion, c'était un jeu télévisé pour reconnaître des mélodies. Il a été enregistré à l'American Theatre, vestige du pavillon américain.
Le fait qu'un pavillon de l'Expo 58 ait connu une seconde vie en tant que dancing est d'une certaine manière approprié. Après tout, l'exposition universelle n'était pas seulement une vitrine de l'innovation, mais aussi une fête vibrante, pleine de sons et de danse. Frances a lui aussi été séduit par la musique et l'ambiance de l'époque.
Je me souviens bien du deuxième ou troisième jour d'ouverture de l'Expo. J'ai reçu une invitation de la BRT, la radio-télévision belge. Il y avait un gala d'ouverture dans le grand pavillon et au gala d'ouverture, il y avait Jules Lehmanns et d'autres de Bob, Benny et la grande vedette de l'époque, Mario Lanza. J'ai vu Mario Lanza ici à l'exposition universelle, mais c'était différent. J'y suis allé pour écouter, mais ce n'était pas comme Puckle Pop que vous êtes là dans la prairie avec des milliers de personnes. Vous étiez bien assis dans votre fauteuil à écouter Mario Lanza ou Jules Lehmanns. Pour parler de musique, j'ai aussi été exposé à la musique d'autres pays. À l'époque, j'aimais bien écouter la musique brésilienne. Et s'il jouait The Girl from Ipanema, je me levais et je dansais. Cette chanson, elle existait déjà, mais elle n'était pas encore connue à l'époque. Vous êtes en contact avec d'autres cultures. C'était la joyeuse Belgique. Mais l'homme précédent, s'il a rencontré son amour ici et ainsi de suite, il est déjà allé dans la Belgique amusante. J'avais 14 ou 15 ans. Je suis bien allé une fois à la Grande Belgique, en vieille de Belgique, mais je suis rentré à l'heure. Je ne me suis pas assis tous les soirs à l'Oberbrauhaus de Löwenbräu. Löwenbräu avait, en Belgique, joyeuse, ou dans le parc d'attractions, une très grande tente de fête, et ils y organisaient des soirées dansantes, et nous y allions en groupe. C'était en avril ou en mai. Mais les festivals d'octobre se sont déroulés à Löwenbräu, au parc d'attractions, il y avait des autos tamponneuses. Ce cinéma dont j'ai parlé au début, le Cinérama, n'était là. C'était en fait une fête foraine, avec aussi l'Oberbrauhaus, où l'on pouvait boire des litres de bière. Donc, il y avait beaucoup de monde là-bas. La première pinte que j'ai bue de ma vie, à l'âge de 15 ans. Et aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison possible. L'Atomium se compose de trois piliers. L'un des piliers fait face à l'église Saint-Lambert, là-bas, je crois. Un autre pilier est arrivé dans le pavillon de l'aluminium. Et il y avait un pilier et il y avait un café où il ne servait que du ginger ale. Ma première pinte était une ginger ale de 15 ans d'âge au pied de l'Atomium.
Il ne fait aucun doute que l'Expo 58 a une signification particulière pour beaucoup de monde. Tous ceux qui ont eu le privilège d'entrer en contact avec elle ont été enchantés et l'optimisme affiché a inspiré toute une génération. Pour Frances aussi, qui a le Bruxelles de l'époque bien ancré dans son cœur, l'exposition universelle reste un souvenir étincelant et impérissable.
J'en parle encore toujours. C'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation à venir ici. L'expo a éveillé beaucoup de choses. Je voyage beaucoup. J'ai eu 80 ans il y a 2 semaines. Cette situation commence à s'atténuer. Mais j'ai beaucoup voyagé et je pense que c'est grâce à l'Expo 58. L'exposition universelle a eu un impact important sur moi. Et c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai effectué un travail sous 5 noms différents. J'ai travaillé dans une banque. Cette banque a été désignée en 1962. C'était la Banque de la Société Générale de Belgique. Elle a ensuite été rebaptisée General Banking Company, puis à la Générale de Banque, puis à Fortis Bank et maintenant à BNP Paribas. Et j'ai travaillé à la fin de ma carrière au sein du département international. J'ai donc de nouveau été en contact avec des cultures étrangères, avec des banquiers étrangers, etc. Mais je me souviens qu'à un moment donné, nous avions d'étranges, des stagiaires d'autres pays, pour une semaine ou deux, à notre service. Et à chaque fois, Van der Vondelen, vous prenez un interne. Parce que je connaissais l'anglais, mes collègues le connaissaient moins. Je pense que maintenant que vous en parlez, que peut-être cela avait aussi ses racines. là. C'est-à-dire, vous pouvez me déposer à Istanbul. N'importe où, alors je veux commencer à diriger pendant une semaine. Et je vais vous dire ceci et cela, j'ai appris à connaître le monde.
Merci de nous avoir écoutés. Vous voulez d'autres histoires? N'hésitez pas à écouter les autres podcasts et à vous immerger dans le monde de l'Expo 58. Vous ne vous lassez pas de l'Atomium ou de l'exposition universelle? Surfez sur atomium.be pour toutes les informations ou visitez l'exposition permanente sur l'Expo 58 dans les sphères de notre monument national.